conférence privée du noviciat par le père Philippe à Saint-Jeudard le 11 février 1994.
Alors, on est dans la stricte intimité. C'est bien de temps en temps de faire ça. Là, je vois que les sœurs progressent. Bientôt, il n'y aura plus de place pour les frères. On a l'impression. Alors, toute une série de questions. Quelle conscience pouvons-nous avoir de notre péché? Conscience morale. En premier lieu. Conscience que nous n'avons pas fait ce que Dieu réclamait de nous. La conscience de la désobéissance, c'est la plus facile à avoir. On a désobéi. Il y a un caractère objectif là. C'est la conscience par rapport de Dieu. Alors, et puis il y a une conscience beaucoup plus profonde, qui est la conscience au plan de l'amitié avec Jésus, de l'alliance d'amour avec Jésus. Il y a deux aspects qu'il faut tout le temps comprendre dans la conscience du péché. Il y a la matière, ça c'est moral. Et puis il y a la délicatesse de l'amour. On ne veut pas blesser celui qu'on aime et celui qui nous aime. On ne veut pas aller contre ce qui mettrait un tout petit peu d'ombre. On n'a pas été jusqu'au bout du bon plaisir de Dieu sur nous. Mais c'est beaucoup plus subtil, ce n'est plus au fond, au sens strict. Le bon plaisir de Dieu, le bon plaisir du Christ par rapport à une personne. On n'a pas été en conformité plénière vis-à-vis de lui. Et c'est toujours ces deux aspects. Ça, je crois qu'en tant que religieux, en tant que désireux de vivre de l'alliance de l'époux et de l'épouse, de l'alliance, de l'amitié. C'est cet aspect-là qui est le plus important pour nous. Nous devons affiner notre conscience théologale, dans cette connaturalité profonde que nous devons avoir avec le bon plaisir du Père, avec le bon plaisir de Jésus. Parce que c'est au fond toujours l'obéissance, ce qui caractérise l'éthique chrétienne. comparativement aux autres modalités, c'est que l'obéissance prie prend une valeur très très forte. Le premier péché est un péché de désobéissance, d'orgueil dans la désobéissance. Et je crois que, puisque Jésus est mort dans l'obéissance, c'est pour nous faire comprendre que l'obéissance doit envelopper toute notre vie. Alors, Thomas d'Aquin précise l'obéissance du serviteur. Bon, ça c'est l'obéissance morale. On doit accomplir ce qui nous est demandé dans les différentes matières, dans toutes les matières morales. Point de vue de la vertu de tempérance, de chasteté, de pauvreté, de justice. Et on n'a pas négligé ça. Mais, évidemment, j'allais dire, ça c'est l'examen commun. Notre examen de conscience en regarde s'il y a eu des désobéissances nettes. Puis après, c'est plus subtil, c'est les dons du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons été dociles à l'Esprit-Saint? Et nous devons demander constamment d'avoir cette docilité à l'égard de l'Esprit-Saint, puisque ce sont ceux qui sont mûs par l'Esprit-Saint qui sont enfants de Dieu, qui sont fils de Dieu. Or, on cherche à être enfant de Dieu. C'est pas suffisant de chercher à être juste et craignant Dieu. Le juste de l'Ancien Testament, c'est pas suffisant. On n'est plus de l'Ancien Testament, on est du Nouveau. Et le Nouveau, c'est le jeune homme riche qui doit suivre Jésus. Or, on suit Jésus à travers le souffle de l'Esprit-Saint. Et où les fautes sont d'autant plus graves qu'on a plus reçu. Seconde question. Qu'est-ce que la contrition? La contrition, c'est être triste, une tristesse d'avoir blessé le cœur de Jésus et vouloir réparer parce qu'on a blessé le cœur de Jésus en péchant, en étant en manquant de délicatesse, en résistant à l'Esprit Saint. On est triste de ne pas avoir aimé assez, de ne pas avoir été assez loin dans l'amour. Là, on a une vraie tristesse qui nous envahit, qui nous prend. De l'attrition, vous voyez qu'il semblement avoir le point de vue par rapport au péché. On a péché, alors on est séparé de Dieu, on a peur de l'enfer. Ça vous touche moins, ça. Et c'était classique, contrition, attrition. On a une contrition d'avoir blessé le Dieu. Blesser le cœur de Jésus, pas avoir répondu avec amour. C'est, on regarde l'aspect tout à fait formel du péché, qui est d'avoir, qui est de nous mettre dans un état de désobéissance à l'égard de Dieu, un état de désobéissance. Et cet état de désobéissance qui est insupportable pour notre cœur. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter qu'entre le cœur du Christ et nous-mêmes, il y ait quelque chose, quoi, un malentendu. Comme quand on aime beaucoup quelqu'un, on ne peut pas accepter qu'il y ait un malentendu. On veut que les choses soient nettes, pleines, claires et lumineuses. Et alors, la contrition parfaite et la contrition imparfaite viennent justement de ce fait que la condition parfaite, c'est quand on regarde vraiment cette blessure du cœur de Jésus et que on est résolu de ne plus recommencer. Et on supplie Dieu de nous donner la force de ne plus recommencer. C'est-à-dire que c'est bien la dernière fois. Ça ne se représentera plus, on ne le fera plus. On demande vraiment pardon. Demander pardon à Dieu de la blessure qu'on a pu lui causer. Et on en est désolé. La contrition imparfaite, c'est justement quand, de fait, on s'excuse un peu. On n'a pas cette désolation intérieure. Le pentos, comme parlent les pères de l'Église. La contrition parfaite, ça nous fait pleurer sur nos fautes. Ça nous fait pleurer sur nos fautes. Pas nécessairement des pleurs visibles, mais des pleurs intérieures. de recommencer et de faire un grand effort. Mais ne pas accepter les ornières qui sont dans notre vie. Hein. Il y a des fragilités dans notre vie. Fragilités que dès qu'on voit des chocolats se précipiter dessus. Et on en prend. Sa faute. maître du novice, maîtresse du novice. C'est toujours elle, c'est toujours lui, cet imbécile qui est là. Ce gendarme qui est là, est bien différent. À ce moment-là, il est poussé comme ça, passionnel. Mais c'est poussé passionnel. Diminue énormément la gravité du péché. Quelqu'un qui est terriblement irascible, qui cherche vraiment à être saint, qui cherche vraiment à aimer Dieu, et qui ordinairement fait beaucoup d'efforts. Cette poussée d'irascible diminue énormément la faute. Il fera peut-être quelque chose de grave. Dans ses paroles, il y aura des choses qu'il n'irait jamais à froid. Il fera des gestes de violence. Ça peut arriver, mais alors là, la gravité de la faute est très diminuée à cause de la passion. Quelqu'un qui pêche à froid, c'est très différent. Il a médité ça, il a réfléchi, il a dit, tu vas faire ça, tant pis, ça m'est égal. Alors il peut y avoir une rupture, en vrai. Mais je crois que le péché mortel implique en lui-même une pleine conscience d'une rupture où l'on ne regarde que soi, son orgueil, sa vanité et son plaisir. Les trois domaines de concupiscence où il peut y avoir des fautes graves. Et on est conscient. Ça fait partie. Vous savez bien, c'était ce que le vieux catéchisme disait. Je ne sais pas ce que dit le nouveau catéchisme, mais il a dû prendre la vieille formule. Je ne vais pas regarder. Parce que ça ne m'inquiète pas tellement de voir cela, mais c'est intéressant, c'est important. L'Église nous demande d'avoir quand même une conscience suffisamment nette là-dessus. Pleine conscience, matière grave, entier consentement. Mais pleine conscience. Matière grave. Il y a des matières graves. Dans le domaine de la concupiscence charnelle, dans le domaine de la nourriture ou de la boisson, quelqu'un qui s'enivre, ça n'arrive plus beaucoup, j'espère. Mais ça arrive encore une fois, hélas. Pas ici, mais vous voyez, ça peut arriver. Nous avons des familiers quelquefois qui ont eu des vies très dures, qui sont très édifiants, et c'est vite un coup de chagrin, un grand coup de chagrin, une grande déception, pour que on se rattrape. C'est souvent ce qui arrive chez les ivrognes, ils se rattrapent dans le vin, dans l'alcool. Pendant la guerre, il y avait un pharmacien que je connaissais bien. Je dis pas tout parce qu'on pourrait se retrouver. Et je crois qu'il n'y avait que sa pharmacie qui était ouverte pendant la guerre. Toutes les autres étaient fermées. Donc il travaillait très tard. Et il était éreinté. Il s'était habitué à prendre de l'alcool 90. C'est affreux. Pour tenir bon. Et puis il était devenu alcoolique. Et c'était terrible. C'était un bon père de famille. Je crois qu'il avait 8 enfants. C'est effrayant pour lui de s'apercevoir qu'il était alcoolique. Qu'il avait cette espèce de propension et qu'il perdait la tête complètement. Et à ce moment-là, il faisait des gestes, des actes qu'il ne ferait jamais autrement. Vous voyez, eut tellement d'excuses qui fait que, alors Dieu seul peut juger, hein, au fond définitive, la distinction du péché véniel et du péché mortel est une distinction qu'on fait en théologie scientifique. Il ne faut jamais l'oublier. Et saint Thomas fait ça en théologie scientifique. Et alors, en théologie scientifique, c'est très important. Et le Saint-Père le rappelle dans son encyclique. C'est très important. Celui qui nie ça, celui qui dit que l'homme ne pêche jamais mortellement. Et je crois que ça, c'est grave de dire ça. On sait très bien que ça peut arriver. Dieu nous laisse la liberté de pouvoir rompre par rapport à lui. Par tourner le dos. Partir autre part. Donc, la distinction péché mortel et péché originel repose sur le fait que le péché mortel implique une rupture à l'égard de Dieu. Ça regarde donc la finalité. Ça regarde cet amour premier à l'égard de Dieu. Tandis que le péché véniel regarde les moyens. C'est la grande distinction de théologie scientifique. Et donc ne brise pas l'intention de vie. Vous voyez, au fond, le péché mortel est au niveau de l'intention de vie. Le péché véniel est au niveau des moyens, des choix des moyens. C'est très net au point de vue théologie scientifique, au point de vue théologie mystique. C'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat de discerner si on a pleine conscience. Aussi. Et puis la matière grave. Est-ce que c'est voulu? Ou est-ce qu'on a été petit à petit surpris? Alors on est imprudent. Donc ça c'est très souvent l'imprudence. Mais alors dans l'imprudence, c'est rare qu'il y ait des fautes vraiment graves. C'était quoi des fautes délibérées? On aurait dû être beaucoup plus prudent. C'est comme un accident de voiture qui occasionne la mort de quelqu'un. Ben, c'est matière grave, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a faute grave? Pas toujours. Parce qu'on a été surpris par des tas de choses qu'on aurait dû prévoir. Étant donné, si on dépasse une certaine vitesse, on doit être particulièrement attentif. Et on n'a pas le droit de pas être attentif à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très difficile dans la vie pratique de discerner pour nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'arrêter à ça. Je crois qu'il vaut mieux demander pardon à Dieu et insister sur le fait de la gravité de ne pas avoir répondu avec suffisamment d'attention, suffisamment d'amour. Et de voir que nous manquons d'amour, je crois ça beaucoup plus important, oui, que d'insister beaucoup sur la gravité du péché. On ne doit pas le négliger, voilà. Vouloir le supprimer, le négliger, ce serait pas bien et ce serait grave. Mais dans la vie pratique, il ne faut pas tomber dans le scrupule. Et le scrupule est une maladie qui facilement touche des personnes sensibles qui tendent vers la sainteté. On doit éviter là, ça. Alors moi je crois que je donnerais plus le fait plutôt de se dire est-ce que ça fait chier grave. Mais demander pardon, c'est bien plus utile de demander pardon. C'est beaucoup mieux. Tout le temps vous perdez à scruter votre conscience. Est-ce qu'il y a eu péché mortel, péché mortel ou péché? Est-ce que j'ai fait insuffisamment d'attention? Est-ce que la matière est vraiment grave? Est-ce que... Et ainsi de suite, vous voyez. Je vous ai déjà dit, mon premier ministère, c'était au Saulgeoir. J'étais jeune père. Il n'y avait personne dans le couvent. Père Briat, je me chargeais des étudiants. J'étais responsable du couvent. Arrive un homme 45 5 ans. Qui demande s'il peut venir passer 8 jours. Hein, tu dis oui, c'est sûr, de retraite. Puis tant que j'étais le seul à le recevoir, le lendemain, il arrive avec une petite valise. Puis il ouvre, puis il voit la tour évêché. Il y avait comme ça. Tout était inscrit. Il voulait faire une confession générale. désir de perfectionnisme absolu. On veut réussir toujours parfaitement. Il peut y avoir beaucoup d'orgueil. Alors, comment les dépasser les scrupules ? Être extrêmement obéissant à son père spirituel. C'est la seule manière d'en sortir. Tout dire à son père spirituel. Et être très obéissant à ce qu'il dit. Il n'y a pas 36 manières. On peut pas, quand le scrupule est grand, on ne peut pas en sortir seul. Mais on peut en sortir. Alors, comme me disait un homéopathe, on peut demander aussi des petites pilules. Anti-scrupules. Impossible autrement, on lui demande tous les jours d'être là, présente à notre mort. encore le droit de se cacher derrière elle. Regardez-moi à travers Marie. Et là, miroir amaigrissant et grossissant. Quand il s'agit de tout ce qu'on a fait de bien à Marie, c'est merveilleux. Puis ce qu'on a fait de mal, Marie est là pour montrer ce pauvre petit. Il est dans des circonstances mauvaises. Il y avait à côté de lui quelqu'un qui l'agaçait du matin jusqu'au soir. Ça peut arriver, ça. Et alors quand l'autre, le pauvre petit, qui l'agaçait du matin jusqu'au soir, celui qui l'agaçait, arrive, Marie dira la même chose, pauvre petit, il était à côté. Quand on s'agace mutuellement, vous savez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est très curieux. Il y a des personnes qui suffit de les voir pour être agacées. Puis il y a des personnes, il suffit de les voir pour être apaisées. C'est cette espèce de magnétisme mystérieux. De temps en temps, on est devant quelqu'un, c'est une pile surchargée, pile électrique. Et on fait un effort énorme de rester 10 minutes, mais faut pas plus, après, ça éclate. Et la satire, je sais très bien. On doit faire tout ce qu'on peut pour tenir bon. Regardez, alors, il y a l'examen psychologique. C'est pas la peine d'en faire d'examen psychologique, je crois pas. Pour un religieux, c'est pas la peine. Un religieux a sa philosophie. Et il a les dons du Saint-Esprit. Et je crois que si on est lucide, c'est là où l'éthique joue un rôle très important. Si on est lucide sur soi-même, et que on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, l'Esprit Saint nous donne la lumière. Alors c'est là où j'ai dit l'examen de conscience ne tient plus. Une introspection, c'est tout simplement se mettre en face de Jésus d'une manière toute simple, en face de Marie, sous le regard de Marie, comme la petite Bernadette, se mettre sous le regard de Marie et demander à Marie de nous montrer tout ce qui dans notre vie actuellement n'est pas conforme à son cœur. Et on demande la même chose à Jésus. À Marie, c'est la charité fraternelle. Et à Jésus, c'est la contemplation et l'adoration à l'égard du Père. C'est très curieux, il y a un partage. L'Apocalypse se montre bien. Et c'est très sédance. Il faut que nous comprenions. Il faut demander à Jésus de nous faire comprendre ce qui, dans notre vie actuellement, n'est pas conforme à son amour. Dans la lumière des dons du Saint-Esprit. Et il faut regarder les 7 dons. Successivement. Ça, c'est très éclairant. Mais il n'y a pas de méthode, puisque c'est la charité, c'est l'amour. Mais c'est l'amour avec ses 7 modalités. Et c'est cet examen de conscience qui se fait en présence de Jésus comme une anticipation du jugement particulier. Et quand on sera en face de Jésus, on n'aura pas du tout envie d'un examen de conscience. On n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter à son cou et de lui dire qu'on l'aime. Dire enfin, après tout ce temps passé sur la terre, enfin, on vous trouve, vous êtes là, et c'est pour l'éternité. Et alors si je suis dit, attention, attention, d'abord l'examen de conscience, assieds-toi. Et il dira ça parce qu'on n'aura pas assez durant sa vie. Anticiper le jugement particulier. Vous voyez, on peut communier par le désir. On peut que lorsqu'on verra Jésus, on n'aura plus besoin de faire cela. Il faut beaucoup mieux qu'il le fasse ici. La grande lessive, la grande purification. Et lui demander de faire cette grande purification sur la terre. Pour gagner du temps. Alors je crois que c'est ça que j'appelle, vous voyez, l'examen par les vertus théologales et par les dons du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même en tant que grand prêtre. C'est Marie elle-même en tant que mère qui vont comprendre ce qui dans notre vie actuellement n'est pas tout à fait ce que Jésus veut. Telle ou telle chose, c'est peut-être pas mauvais, mais ce n'est pas suffisamment parfait. Ça ne va pas assez loin. C'est pas suffisamment limpide. Il y a un tout petit retour sur soi, une toute petite complaisance sur soi. Et on veut être d'une limpidité absolue. Et alors là, vous voyez, il ne s'agit plus de péché mortel, péché véniel. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que nous sommes suffisamment fervents? Est-ce que nous exploitons divinement tout notre capital d'amour? Est-ce que nous demandons suffisamment au Saint-Esprit de nous prendre tout le temps le plus profondément qu'il peut? Ceci à l'égard de Dieu, ceci à l'égard du prochain. Et je vous affirme, si on fait ça, il y a beaucoup de choses qui dégringolent, des œillets. Petit à petit, il y a une force beaucoup plus grande dynamisme surnaturel qui nous permet de dépasser les petites difficultés. Et nous ne tombons pas dans certaines ornières qu'on connaît. Il y a des ornières pour chacun d'entre nous. Des ornières d'orgueil, des ornières de concupiscence, de la chair, des orgueils de vanité, des orgueils de vouloir plaire. Alors toutes ces ornières petit à petit disparaissent pour qu'il n'y ait plus que ce grand élan d'amour vers Jésus. Et c'est ça qui est important.